Karina Tertiakan, bonjour.
Bonjour.
Human Rights Watch publie un rapport dans lequel M23 est terriblement accablé. Exécution sommaire d'une quarantaine de personnes, viol d'au moins 60 femmes et filles, sans compter les autres exactions sur les civils. Est-ce que c'est une façon pour votre organisation d'en découdre avec ces mouvements rebelles?
Human Rights Watch a documenté depuis longtemps les exactions commises par le M23, mais également par d'autres groupes armés dans l'est de la RDC. Alors, dans notre nouveau document, nous décrivons particulièrement les exactions commises par les M23, les exécutions sommaires, les viols, les recrutements forcés, mais nous mentionnons également les exactions commises par d'autres groupes, notamment certaines milices Hutu congolaises qui seraient alliées au FDLR et qui, elles aussi, ont commis des actes de viol et de tuerie envers la population civile.
Mais la plupart des gens qui vous ont donné les informations sont des anciens officiers ou les déserteurs, en ce qui concerne évidemment les M23. Croyez-vous en leur sincérité et lorsque vous les regardiez dans les yeux, vous lisiez quel sentiment en eux?
Nous avons en fait interrogé beaucoup de sources. C'est vrai effectivement que parmi ces sources, il y avait de nombreux déserteurs du M23, des anciens combattants du M23, mais il y a également d'autres sources que nous avons interrogées, y compris des sources complètement indépendantes du M23. Par exemple, des civils qui habitent près de la frontière, soit du côté congolais de la frontière, soit du côté rwandais. Et nous avons également interrogé des victimes de ces exactions. Par exemple, des femmes ou des filles qui ont été victimes de viols hein, ou des personnes qui ont été recrutées de force. Alors, pour revenir à votre question sur les déserteurs, nous en avons interrogé de nombreux, donc ce n'est pas seulement un ou deux. Nous recoupons toujours les informations, donc nous n'en fions pas uniquement sur un ou deux témoignages. Il y a des témoignages, bien sûr, qui sont plus ou moins crédible que d'autres, mais nous cherchons toujours à confirmer les témoignages et pas uniquement de prendre des témoignages qui pourraient être caractérisés par un parti pris. Hein.
Oui, mais quels sont les sentiments qui animaient ces gens-là quand vous les regardiez dans les yeux?
Bon, je dirais que d'une manière générale, les gens que nous avons interrogés, que ce soit les déserteurs ou que ce soit les autres victimes d'exactions, c'est un sentiment de peur essentiellement. Ces gens ont subi des atrocités, des actes de brutalité extrême. Ces gens ont soit échappé à la mort, soit ont subi des viols extrêmement brutaux. Donc je dirais que le sentiment principal qui les caractérise, c'est tout d'abord la peur.
Mais vous citez plusieurs fois les Rwandais dans ces rapports comme pays qui aide les M23 en logistique comme en hommes de troupes. Est-ce que Human Rights Watch peut affirmer clairement et ouvertement que c'est le Rwanda qui fait la guerre à la RDC et que les M23 n'est qu'une fiction, comme ne cesse de le dire les porte-parole du gouvernement congolais Lambert Mende?
Je ne dirais pas de cette manière-là. Hein. Nous ne disons pas que le M23 est une fiction et nous ne disons pas non plus que le Rwanda fait la guerre à la RDC. Ce que nous disons, par contre, c'est que le Rwanda a soutenu le M23 dès le départ, c'est-à-dire depuis 2012, et continue de le faire. Donc le document que nous venons de publier porte sur la période plus récente, depuis le mois de mars 2013 jusqu'à ce mois-ci. Et pendant cette période, nous avons reçu des informations multiples et crédibles décrivant, par exemple, des mouvements fréquents d'hommes armés en uniforme militaire venant du Rwanda vers le Congo pour rejoindre le M23. Nous avons reçu des informations sur l'approvisionnement du M23 en armes, en munitions, en vivres, etc. en provenance du Rwanda. Et nous avons également des témoignages concordants sur le recrutement de jeunes gens et de garçons, d'adolescents au Rwanda pour aller rejoindre le M23 au Congo.
Votre rapport accable les Rwandais et à ces pays, vous faites des recommandations. Pensez-vous que vos recommandations lui soient les bienvenues?
Il y a un problème fondamental qui est que le gouvernement rwandais a toujours nié et continue de nier son implication au Congo et continue de nier tout soutien au M23. Donc c'est sûr que ces recommandations-là, c'est un peu en décalage, je dirais, avec la position officielle du gouvernement rwandais. Mais nous estimons tout de même que le gouvernement rwandais a certaines responsabilités, non seulement d'arrêter toute forme de soutien au M23, mais aussi à coopérer aux efforts qui viseraient à traduire en justice les commandants du M23 qui ont commis des exactions graves, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Le Rwanda est un membre de la communauté internationale et d'ailleurs un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. et a donc certaines responsabilités au niveau international.
Mais est-ce que les États-Unis d'Amérique, à qui vous formulez aussi des recommandations, vont-ils vous écouter cette fois-ci? Parce que ce n'est pas la première fois que vous vous livrez à cet exercice depuis que l'Est de la RDC vit des pires drames.
Bon, c'est une situation à long terme. Je pense que les solutions aussi sont à long terme, même si on espère bien sûr qu'il y aura certaines mesures qui seront prises tout de suite pour au moins arrêter la violence. Donc en ce qui concerne les États-Unis, mais aussi les autres gouvernements des pays, notamment qui fournissent une assistance au Rwanda, nous leur demandons d'abord de dénoncer le soutien que le Rwanda continue d'apporter au M23, mais également d'appuyer l'imposition de sanctions, non seulement envers les commandants du M23, dont plusieurs sont déjà sous le coup des sanctions de l'ONU, mais également des autorités rwandaises, par exemple de certains officiers rwandais, qui sont connus pour avoir soutenu le M23 depuis sa création.
Karina Tertiakal, merci d'avoir répondu à nos questions.
Et c'est moi qui vous remercie.